Cobard. Comment ça va? Ouais, content. Salut. Capi. Ouais, comment ça va? Oui, merci. C'est gentil. Merci pour ton bon travail. Tu as bu?
C'était toi. Merci.
Bonjour à tous. Ça va bien? Bon. Oui, ça va, par la grâce de Dieu, c'est bien ça. Très peu de gens posent cette question comme ça, hein? C'est bon. Merci. Nous remercions notre groupe musical, Stéphane, avec toute l'équipe qui vient de nous conduire dans la louange. Pensons que nous avons eu un bon temps de louange, de chant. Que Dieu a été agréablement loué, chanté dans nos cœurs. Maintenant, tous les fardeaux qu'on avait amenés ce matin, je crois qu'ils ont été déposés au pied de la croix, n'est-ce pas? Vous les avez déposés? Je crois que vous ne devez plus retourner avec ça à la maison. Quand on vient à l'église, qu'on vient parler à Dieu, qu'on vient adorer, qu'on vient prier, c'est pour déposer nos fardeaux à ses pieds et puis on retourne léger. Amen. On retourne? On retourne? Léger. Alors, si tu retournes avec ton fardeau, encore il y a un problème. Tu dois les déposer. Et chaque semaine, ainsi de suite. S'il y en a, assis. Alors, ce matin, nous allons continuer avec le sujet que notre frère Trevor avait commencé la semaine dernière. Alors, caractère en construction. Le caractère qui est en construction. Nous avons parlé de cela la semaine passée par Trevor. Alors, on va avoir une petite révision rapidement dessus. Est-ce que ça avance? Ok, parfait. Parfait, ça va bien. La semaine dernière, Trevor nous a parlé réellement de cela, que nous avons un caractère qui est en construction. Et il a essayé en réalité de nous amener à comprendre certains éléments au travers du caractère en construction. Ce que Trevor nous a dit, que le caractère en construction commence par le renouvellement de notre intelligence. Romains 12, 1 et 2. Le renouvellement, notre caractère, la transformation commence par le renouvellement de notre intelligence. Et Trevor nous a fait comprendre que le renouvellement de notre intelligence est tellement important, c'est-à-dire que nos pensées doivent être transformées, métamorphosées. Et c'est ce qu'il nous a dit, à l'image de Christ. Et pour cela, ça prend quelque chose. Ça peut se faire n'importe comment. Quand tu veux faire une modification dans ta maison, tu peux prendre n'importe quelle personne qui se déclare maçon ou entrepreneur, n'est-ce pas? Mais on sait, et Dieu seul sait combien de personnes se sont autoproclamées entrepreneurs qui ont fait des mauvais travaux, n'est-ce pas? Et que des gens en ont payé cher. Mais ici, Trevor nous a amené à savoir comment on peut faire cela. Alors, pour avoir une intelligence renouvelée, pour avoir un cœur ou une pensée transformée, alors ça prend réellement la lecture de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu. Non seulement nous devons méditer la parole de Dieu, nous devons la mémoriser. Et j'ai pris ces images-là, j'ai aimé le cerveau qui lève le poids. Et ça, c'est toute une mémorisation. Ça travaille un cerveau comme ça, ça travaille fort. Alors, nous devons apprendre à mémoriser la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en connaissant la parole de Dieu, elle fait partie intégrante en nous, et de sorte que quand nous sommes confrontés à des situations et des difficultés, naturellement, la parole surgit. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, si tu n'es pas imprégné par cela, quand tu vas arriver face à des situations difficiles, tu vas tâtonner comme un aveugle. Parce que tu ne sais pas quoi faire. Et la Bible nous dit, dans Jean 14, que l'Esprit de Dieu rend témoignage, l'Esprit de Dieu rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu, mais non seulement ça, l'Esprit de Dieu prendra ce qui est de Christ, il nous l'enseignera, mais il nous rappellera tout ce que Christ nous a enseigné. N'est-ce pas? Il dit cela aux disciples. C'est Jésus-même qui disait ça avant de partir. Il dit, je vous enverrai un consolateur. Mais le consolateur va prendre ce que le Fils de Dieu a laissé et il va enseigner, il va rappeler aux gens. Mais si tu n'as rien comme dépôt en toi, on va rappeler quoi? L'Esprit va faire appel à quoi en toi s'il n'y a rien comme dépôt de la parole de Dieu? Alors quand on apprend la parole de Dieu, on la mémorise, ça nous aide à pouvoir surmonter les difficultés. Il nous a montré comment Jésus a répondu au diable quand il était attaqué. Il est écrit. Il est écrit. Quand le diable dit « transforme la pierre en pain », il dit « il est écrit ». N'est-ce pas? Il est écrit. Alors, nous voudrons qu'à l'Assemblée chrétienne du Cap de la Madeleine, que nous soyons des hommes et des femmes qui connaissent la parole de Dieu à tel point que nous répondons à toutes les circonstances, à toutes les situations, il est écrit. Amen. La parole de Dieu dit ceci, et non les philosophes disent cela. Je n'ai rien contre eux là, mais c'est une façon de parler. Alors, donc ce matin, je vais continuer avec la suite dans le sens notre gardons nos cœurs contre les idoles. C'est le point que j'amène dedans. Nos pensées sont les fenêtres de notre âme. Nos pensées sont les portes de notre âme. Et tout ce que notre pensée peut saisir ou tout ce qui entre dans notre pensée peut transformer ou modifier notre caractère, n'est-ce pas? Alors, comme c'est le siège de notre cœur, alors que les pensées par lesquelles l'ennemi peut rentrer, tout peut rentrer, alors j'aimerais que nous sachions que les idoles aussi peuvent influencer notre caractère. Si nous les laissons prendre place dans notre cœur, dans notre être, les idoles peuvent influencer nos pensées. Ils vont influencer notre caractère et ils vont forger notre caractère. Et nous savons que si nos pensées sont atteintes, que ça découle sur nos pensées, sur notre caractère. Et si notre caractère est forgé, qu'est-ce que ça va faire? Ça va toucher nos actions, ça va toucher nos paroles, et ça va toucher notre relation avec Dieu et notre relation avec notre prochain. Donc, d'où il est important pour nous de veiller sur cela. Alors, la question qu'on peut se poser, est-ce que nous avons des idoles dans nos vies? Vous me direz, non, on n'a pas des idoles, nous autres. Nous, on est au Québec. On est civilisé, on n'a pas des idoles. Parce que quand on parle du mot idole ou idolâtrie, tout de suite, s'il y a des Africains dans la salle, ils pensent à un vaudou, ils pensent à un marabout, ils pensent aux chamans, ils pensent aux amulettes, les ceintures de sécurité qu'on met pour se protéger en Afrique, n'est-ce pas? Hein? Le lion indomptable, n'est-ce pas? Alors, donc, c'est ce que les gens pensent automatiquement. Mais en Occident, peut-être ils pensent autre chose. Peut-être certains ont fait la magie blanche, peut-être certains ont fait le boule d'aller voir les voyants, la divination, les boules de cristal, peut-être quelques blancs ont fait toucher un peu le vaudou. Mais il n'y a pas que ça qui sont des idoles. En Occident aussi, nous avons plusieurs sortes d'idoles, n'est-ce pas? Vous pouvez en citer beaucoup ce matin, non? Ok, on va aller ensemble après. Donc ce matin, voilà mon plan d'action. On va faire. Donc, nous allons voir les avertissements contre les par rapport aux idoles. Et pourquoi nous devons nous garder des idoles? Et comment pouvons-nous nous garder de ces idoles-là? Et on va aller à la conclusion. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons essayer de voir que dans la parole de Dieu, l'avertissement qui est donné par rapport à cela, ça se trouve ici, nous pouvons voir dans Exode, chapitre 20, versets 1 à 6. Mais je vais le lire de 1 à 5 parce que une partie de 5 à 6, je vais venir plus tard avec cela. Il dit, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont d'en haut dans les cieux et qui sont d'en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. » Premier avertissement. Dieu parle à Israël. Le contexte, c'est quoi? Le contexte, c'est qu'Israël vient de sortir de l'esclavage, de 430 ans d'esclavage en Égypte. Ils étaient dans un pays où le paganisme avait atteint son summum. Alors Dieu les sort de ce paganisme-là. Et il les envoie dans un autre pays qu'on appelle Cana, qu'il avait promis à Abraham pendant plusieurs années. Et il avait dit à Abraham que sa descendance reviendra dans cet endroit. 430 ans plus tard, la descendance d'Abraham, avec 2 millions de personnes, prennent la route et ils se dirigent vers Cana. Et ces hommes et ces femmes qui sont sortis de l'Égypte n'avaient pas de loi. Ils n'avaient pas appris à gérer et à fonctionner en communauté comme il faut. Ils étaient en Égypte, ils étaient esclaves, ils étaient dominés, ils étaient maltraités. Alors en allant dans ce pays, là où Dieu les envoie, c'est un pays aussi où le paganisme aussi est à son summum. Ils quittent un autre paganisme, ils s'orientent dans un autre pays où il y a le paganisme. Alors Dieu va leur donner des lois, il va établir une loi, les 10 commandements, sur la base desquels ça va être l'alliance avec Israël. Comment ils doivent vivre dans ce pays, entre eux, et comment ils doivent vivre pour garder, maintenir une communion avec leur Dieu, et comment vivre en harmonie pour être en paix avec leur entourage. Ce qui était permis dans ce pays et ce qui ne l'était pas. Alors c'est dans ce contexte que les 10 commandements sont écrits et c'est là que Dieu les donne cela sur la tablette à travers Moïse. Il dit la première des choses, je suis l'Éternel ton Dieu. J'étais en train de lire ça, j'ai regardé pourquoi il dit je suis l'Éternel, ça suffit. Mais pourquoi ajouter ton Dieu? Ton Dieu pour montrer qu'il est unique et il appartient à Israël et Israël les appartient. Je suis ton Dieu. Tous les dieux que tu as connus en Égypte, tous les dieux que probablement tu as servi en Égypte, sans me connaître, maintenant je veux que tu saches que moi, l'Éternel, je suis ton Dieu. Et il ajoute, je t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude, ce que les autres dieux n'ont pas fait. Ce que les autres dieux ne peuvent pas faire. Moi, je l'ai fait pour toi. Je t'ai sorti de là. Alors, je t'amène dans un pays où coule le lait et le miel. Alors il dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. L'exclusivité de Dieu. Dieu est un Dieu jaloux, il veut nous garder pour lui seul. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Ce matin, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez d'autres dieux dans votre vie? L'avertissement que Dieu donne à Israël, c'est ça. Est-ce que c'est le seul? Non. Il continue. Il dit, tu ne te feras pas d'image taillée. Non, il va entrer pour expliquer. Non seulement tu n'auras pas d'autre Dieu, je vais te dire c'est quoi le Dieu que je ne veux pas que tu l'aies là. Je vais te donner les détails. Il ne faudrait pas que ce soit des images taillées que tu vas l'avoir. Hein? Ni de représentation quelconque des choses qui sont d'en haut dans le ciel. Que ce soit les oiseaux ou quoi que ce soit, et qui sont en bas sous la terre, dans les eaux plus bas, tu ne les feras pas. Donc ça veut dire de la façon dont tu as vu les Égyptiens faire des choses, tu ne feras pas ça toi. Et il va, il dit, tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Prosterner, c'est une adoration. Alors tu ne feras pas ça. Deuxième avertissement qu'il donne, ça c'est dans le Nouveau Testament. On trouve dans le Nouveau Testament d'autres avertissements concernant les idoles. Il dit, c'est Jean, l'apôtre Jean qui écrit cela, dans 1 Jean 5, 20, verset 12, 5, 20 à 12 plutôt. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ, celui qui est le Dieu véritable, la vie éternelle, petits-enfants, gardez-vous des idoles. Jean, dans son épître, dans Jean chapitre 5, quand il arrive, c'est la fin de cet épître-là, il va donner de verset 13 là, pour jusqu'à 20, il va expliquer des choses dedans. Il va parler de la certitude du salut, la certitude de la foi, la certitude de l'exaucement de la prière. Il donne des certitudes dans ces endroits-là. Comment le chrétien doit savoir, avoir l'assurance qu'il est avec un véritable Dieu. Alors, il va dire ici, vous aussi, gardez-vous des idoles. La raison pourquoi nous devons nous garder des idoles, parce que celui que nous avons est le véritable. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher d'autres dieux ailleurs. Le Dieu que tu adores est le véritable. Jésus-Christ, c'est le véritable. Tu ne t'es pas trompé. Ce matin, si tu es ici dans la salle, tu es venu adorer, tu es à la bonne place. Tu es à la bonne place, pourquoi? Pas parce que tu es dans un beau bâtiment, pas parce que moi je te parle, pas parce que nous t'avons bien accueilli. Tu es à la bonne place pour la simple raison que Jésus-Christ est là et c'est le vrai Dieu que tu es venu adorer. Et c'est celui-là que nous adorons nous aussi. Tu es dans le véritable, tu n'as pas à douter de cela. Peut-être dans ta marche chrétienne, il peut arriver des moments où tu commences à douter. Est-ce que vraiment, est-ce que j'ai fait le bon choix? Si d'un coup Jésus-Christ n'est pas le vrai, j'aimerais ce soir, ce matin, que tu n'as pas à réfléchir et à t'inquiéter pour ça, parce que avant toi et avant moi, les apôtres qui l'ont vu, qui ont côtoyé, qui ont marché avec lui, et ils se sont assis et qui ont été persécutés, qui sont morts par torture, ont dit que c'est lui le véritable. Tu as besoin de quel autre témoignage pour que ta foi soit consolidée? Dis-moi. Tu veux qu'on ressuscite Jean pour qu'il vienne te dire ça ce matin? Non, il ne viendra pas. Il le dit ici. Il dit, tu es dans le véritable. Tu n'as plus à douter. Aucun écrit ne doit te faire douter. Aucun problème ne doit te faire douter. Pourquoi? Parce que nous avons le véritable Jésus-Christ, Fils de Dieu. Amen. C'est le véritable. Et moi, quand j'ai quitté l'islam pour devenir chrétien il y a 29 ans, ou 30 ans aujourd'hui de cela, c'est parce que je cherchais le véritable. Et quand j'ai rencontré le véritable dans ma vie, ça a changé ma vie. J'étais prêt à tout supporter pour le véritable. J'étais prêt à partir partout pour le véritable. J'étais prêt à souffrir pour le véritable. J'étais prêt à être persécuté et à être crucifié pour le véritable. Parce que c'est le Dieu véritable. Amen. Est-ce que vous, ce matin, êtes-vous prêt à vous afficher pour ce véritable Dieu-là? Est-ce qu'il est vraiment le Dieu dans votre vie ce matin? Parce que l'avertissement qui nous dit, gardez-vous des idoles. Est-ce que Jésus-Christ est ton véritable Dieu ou bien tu as Jésus-Christ dans ta vie plus quelque chose d'autre à côté? Parce qu'il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu. Ça veut dire que tu ne peux pas m'avoir moi et ajouter autre chose à moi. Ça veut dire que moi, je suffis totalement. C'est moi ou c'est autre chose. Ça ne peut pas être moi plus quelque chose d'autre. Ça ne peut pas être la croix. Jésus-Christ est mort et ressuscité à la croix pour nos péchés. Et puis tu vas dire, mais cette résurrection-là n'est pas suffisante. Il faut que je travaille beaucoup pour gagner mon ciel. Dans ce cas, travaille et laisse la croix tranquille. Travaille, laisse le sang de Jésus-Christ tranquille. Amen. Alors, c'est pourquoi nous sommes dans le véritable. Nous ne devons pas avoir d'autres dieux. Je ne connais pas ta vie, tu sais. Tu connais les recoins de ta vie. S'il y a d'autres dieux dans ta vie, hors Jésus-Christ, j'aurais à te dire, le conseil que je te donne, out, mets ce Dieu-là dehors. Ce n'est pas le seul avertissement que l'Écriture nous donne. Il dit, ne devenez pas idolâtre. Dans 1 Corinthiens 17. Dans 1 Corinthiens 10, 14, il dit, c'est pourquoi, bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Pourquoi Dieu nous dit tant de fois? Il y en a plein. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a plus de 26 versets qui disent de fuir l'idolâtrie. Dans le Nouveau Testament, il y en a plus de 15 qui disent fuyez l'idolâtrie. Pourquoi Dieu prend le temps de mettre l'accent sur ça? Pourquoi? Parce que c'est important. Vous savez, dans la parole de Dieu, toutes les fois où Dieu est en chicane avec son peuple, vous savez, c'est à cause de quoi? À cause de l'idolâtrie. Israël est sorti de l'Égypte là, même pas longtemps, on leur a donné les 10 commandements là. Ils s'en vont, Moïse s'en va sur la montagne pour parler avec Dieu, 40 jours. 40 jours, on n'a pas dit, il a fait un an là. Il n'a pas fait plusieurs mois là. Il a fait un mois, 10 jours. À parler avec Dieu. Quand il se vire de bord, il trouve son peuple en train de faire quoi? Adorer le veau d'or. Oh, pourtant, on leur a dit de ne pas faire ça. Dieu dit à Moïse, descends, ton peuple est en train de se prostituer. Quelques jours seulement, ils sont sortis. Ils sont tournés vers l'idolâtrie. C'est pourquoi l'Écriture nous met en garde contre cela. Fuyez l'idolâtrie. On va voir plusieurs raisons pour cela à la fin. Alors, qu'est-ce que l'idolâtrie? Bon, dans le dictionnaire, ce que j'ai trouvé, André, ça ne marche pas ici. Hein? Bon, représentation d'une divinité faisant l'objet d'un culte. L'idolâtrie, c'est vouer un culte à un objet, à une chose ou à une personne aussi. Une personne qui est l'objet d'une grande admiration d'un culte passionné. Vous savez quels sont les hommes qui ont connu ça? Hitler était une admiration, a été une idole pour l'Allemagne, pour les nazis. Il fléchissait les genoux devant lui. Et quand il le voyait venir, il disait « Hi Hitler !» Tout le monde levait la main pour lui. Vous savez qui d'autre? Staline, dans les pays de l'Est. Il y en a d'autres encore qui ont été des idoles pour leur peuple. Là, il y a 3 semaines, Jean-Marc Bridgman est venu nous présenter les églises persécutées du monde. En Corée du Nord, le président, le chef d'État, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont interdit l'adoration de Dieu dans ce pays, et puis c'est lui et sa famille, leur photo est là, et c'est leur image que le peuple adore. Ils ont d'autres dieux dans leur vie. Donc l'idolâtrie, c'est être en amour, passionné avec quelque chose. Ça peut être un être humain, ça peut être un objet, ça peut être même la nourriture, ça peut être d'autres choses, parce que dans la parole de Dieu, ils disent pour ventre, leur ventre, Dieu. Parce qu'ils sont trop en amour de la gloutonnerie. Hein? On les appelle les somatotologues. L'idolâtrie. Un idolâtre, c'est l'amour excessif pour quelqu'un ou pour quelque chose. Alors donc, nous voyons cela. Et c'est une fixation, ça j'ai aimé cela, une fixation du cœur sur une autre chose que Dieu. Une autre chose qui prend toute ton attention, qui prend toute ta passion, qui prend tout ton temps, qui prend tout ton argent, qui prend tout. Ça, c'est de l'idolâtrie. Il prend toute la place sauf Dieu, qui n'a pas cette gloire que tu devrais lui donner. Alors, ce matin, mon but est de nous encourager à nous éloigner de l'idolâtrie, s'il vous plaît. Parce que si ça rentre dans notre pensée, ça va affecter notre caractère. Et si ça affecte notre caractère, ça va affecter nos paroles, nos gestes, nos actions, notre relation entre nous, notre relation avec Dieu lui-même. C'est pourquoi l'Écriture nous met en garde. Fuyez l'idolâtrie. Prenez votre jambe au cou. Là, la Bible ne dit pas, dans d'autres passages, la Bible dit, résistez au diable et il... Mais quand il s'agit du péché, il dit, fuyez le péché. Il ne te dit pas, résiste au péché, il dit, fuis. Joseph a fui, il a laissé son manteau entre les mains de la madame, puis il est parti. Et c'est ce que nous devons faire avec le péché, avec l'idolâtrie. Fuyez, courez. On court pour aller en avant. Maintenant, pourquoi nous devons nous garder des idoles? Pourquoi? La raison est que parce que Dieu est un Dieu jaloux. Il le dit, c'est la suite du verset 5 et 6. Il dit, « Moi, car moi, l'Éternel, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième ou quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Dieu dit, « Je ne peux pas rivaliser, je n'accepte pas d'avoir un rival. » Ce n'est pas possible. Je suis un Dieu exigeant qui ne tolère pas la rivalité. Comme une femme n'aimerait pas que son mari prenne une deuxième femme, alors c'est la même chose. Dieu dit, je ne partage pas ma gloire avec d'autres choses. Dieu, il ne partage pas sa gloire. Je suis un Dieu jaloux. Non seulement il est un Dieu jaloux, il dit, je suis un Dieu qui punit à cause de sa jalousie et qu'il ne peut pas tolérer le péché. À cause de sa jalousie, il ne peut pas tolérer l'idolâtrie. À cause de son amour pour nous et pour nous protéger, il punit le péché. Il n'accepte pas ça. Il ne nous partage pas avec quelque chose d'autre. Il ne partage pas Israël avec d'autres dieux. C'est pourquoi il n'a pas arrêté de les rappeler. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Il ne dit pas, je suis un des dieux que tu peux avoir dans tes bagages. Il dit non, je suis l'Éternel, ton Dieu. Il n'y en a pas d'autre. C'est moi ou rien. Un pied dedans, un pied dehors, c'est deux pieds dehors. C'est la réalité avec Dieu. Tu ne peux pas marcher un pied comme ça et puis tu vas marcher, mais tu ne vas pas loin. Tu ne vas pas longtemps loin. Alors, avec Jésus-Christ, on ne peut pas fonctionner comme ça. On doit choisir d'être avec lui ou on n'est pas avec lui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Dieu, nous devons nous garder des idoles? Il y a d'autres raisons pour cela encore. Non seulement parce que Dieu est un Dieu jaloux, mais parce que aussi Dieu, l'idolâtrie est une mauvaise chose. Quand quelqu'un adore d'autres choses que l'Éternel, vous savez ce qu'il est en train de dire? C'est un mépris pour Dieu. Il méprise Dieu. Il n'a pas d'égard pour son Créateur. Adorer autre chose que Dieu, c'est s'abaisser soi-même. C'est être ridicule. Quand j'ai travaillé cela, j'ai commencé à réfléchir sur l'image de Dieu. La Bible nous dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est en nous. Imaginez-vous que l'être humain est le summum de la création de Dieu. Quand Dieu a créé toutes choses, il a créé l'homme pour couronner son œuvre. Et il lui a donné toute autorité. Il lui a donné tout pouvoir sur tout sur la terre, sur tous les animaux. Et il est supérieur à tout, l'être humain. Lui, il n'a pas trouvé autre chose. Et qu'il va aller prendre un morceau de bois, il va s'asseoir pour tailler, donner figure, donner image. Et puis il va s'asseoir devant, il va dire « Allah Akbarou ». Il va dire « C'est mon Dieu ça ». Il va commencer à le prier. Ça, c'est être ridicule. Parce que tu t'abaisses devant quelque chose dont tu es supérieur. C'est insensé, parce que tu as de la valeur plus que cela. C'est une atteinte à la gloire de Dieu, à la personne de Dieu. Parce que ce que Dieu dit de toi, tu le renies et tu dis que tu n'es pas cela et que tu ne vaux pas cela. La valeur que Dieu te donne, toi tu dis, je ne suis pas cela. Tu te trompes, je ne vaux pas ça. S'abaisser devant les idoles, c'est ce que ça voudrait dire. C'est ce que nous sommes en train de dire à l'Éternel. C'est pourquoi Dieu ne peut pas tolérer cela. Dieu t'a créé, tu es plus que cela. Et quand Jésus-Christ vient dans le monde, il vient dans un corps commun. Il ne vient pas dans un bœuf, il ne vient pas dans un âne, il ne vient pas dans un cheval, il ne vient pas dans un ange, il vient dans le corps d'un humain comme nous. Le corps créé à l'image de Dieu, Christ vient dans le même corps. Il ne vient pas dans un corps inférieur à son image à lui. Alors pourquoi toi et moi, on devrait adorer d'autres dieux qui n'est pas l'Éternel? Voilà pourquoi nous devons nous garder des idoles. Adorer autre chose que Dieu, c'est absurde. Ça n'a pas de sens. Et adorer autre chose que Dieu, cela provoque la colère de Dieu. Et nous pouvons trouver cela dans d'autres textes de la parole de Dieu. On peut regarder cela dans Deutéronome, s'il vous plaît. Deutéronome 32. Vous savez ce que Dieu dit par rapport à cela? Deutéronome 32, quand il nous parle. Pourquoi nous devons nous garder des idoles? À partir du verset 15, c'est Dieu qui parle à Moïse. C'est la fin de Deutéronome, Moïse va mourir. Et Dieu lui fait une révélation, il lui parle. Bon, il y a beaucoup de discussions sur ce passage. Certains disent, est-ce que Moïse a lui-même écrit sa mort? Oui, Dieu peut l'aider à faire écrire cela, s'il le lui dit avant. Alors d'autres personnes pensent que c'est Josué qui l'a écrit, ou bien d'autres personnes qui ont écrit après Moïse. Mais en tout cas, l'Écriture nous parle, Dieu parle à Moïse, il lui dit comment ses funérailles vont se dérouler quasiment. Et puis il lui dit de préparer son successeur, Josué, qui va le remplacer. Et pendant cela, Deutéronome, c'est la répétition des lois. Alors pendant cela, il va expliquer à Moïse que quand il va mourir, que Israël va se détourner de l'alliance. L'idolâtrie, c'est nier l'alliance, c'est porter atteinte à l'alliance de Dieu. Alors, donc, il va parler de cela. Et à partir du verset 15, je vais le lire, on va le lire, je vais le lire pour vous. Il dit, Israël est devenu gras. Et il a régimbé. Tu es devenu épais et reflet. Il a abandonné Dieu, son créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Vous allez comprendre pourquoi il dit tout cela. Il a excité sa jalousie. Pourquoi ? Par des dieux étrangers. Ils l'ont irrité par des abominations. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas dieux. À des dieux qu'ils ne connaissent point. Nouveau, venu, depuis peu. Et que vos pères n'avaient pas craint. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître. Et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. L'Éternel a vu, l'a vu, et il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Il a dit, je leur cacherai ma face, je verrai quelle sera leur fin, car c'est une race perverse, et ce sont des enfants infidèles. Ils ont excité ma jalousie parce qu'il n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par leur vaine idole. Et moi, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple. Et je les irriterai par une nation insensée. Et ici, Dieu parle à Israël. Il explique à Moïse ce qui va arriver après lui. C'est comment Israël va se comporter. Et puis comment lui, Dieu, va se comporter avec eux. Qu'est-ce qui irrite Dieu ? Pourquoi nous devons nous arrêter, nous devons faire attention, nous garder des idoles? Parce que les idoles irritent Dieu. Les idoles nous font cacher la face de Dieu. Les idoles empêchent Dieu de nous écouter. Quand nous avons d'autres dieux que l'Éternel, alors nous avons tous les troubles du monde. Et dans Jérémie, qu'est-ce que Dieu dit? Malheur à celui qui prend la chair pour son appui. N'est-ce pas? Et qui abandonne l'Éternel. Donc, nous devons faire attention. L'idolâtrie est une très mauvaise chose, dans le sens que, je crois que j'en ai assez parlé, c'est un faux Dieu. Voilà pourquoi nous devons nous détourner d'eux. Parce que les idoles cherchent à détourner notre adoration pour amener vers eux. Ils nous détournent du véritable Dieu pour amener vers eux. Est-ce que je devrais apporter des actions de grâce à une idole? Est-ce que je devrais apporter les fruits de mes entrailles à une idole? Est-ce que je dois apporter les prémices de mon travail, de ma force et de mon énergie à des idoles? Qu'à l'Éternel, notre Dieu? Non. C'est Dieu seul qui mérite cela. L'idolâtrie, c'est voler la gloire de Dieu à tous ces niveaux-là. Je pourrais m'étendre dessus jusqu'à cet après-midi, mais on va arrêter quelque part, on ne peut pas continuer. Alors ces dieux-là, nous ne devons pas les adorer parce qu'ils sont impuissants. Dans l'Ancien Testament, les prophètes se moquent d'eux. Ésaïe se moque d'eux. Dans le psaume 115, on se moque d'eux. On dit ils ont des yeux, ils ne voient pas. Ils ont une main, ils ne peuvent pas bouger. Ils ont des pieds, ils ne marchent pas. Ils ont une bouche, ils ne peuvent pas parler. Il n'y a même pas de trou dans leur gorge. Alors, on se moque d'eux. C'est pour une façon de dire que c'est des dieux impuissants. L'idolâtrie, c'est des dieux du néant. C'est des dieux qui ne peuvent pas secourir, qui ne peuvent rien faire. Et moi, l'Éternel, je fais tout pour vous. Voilà la différence entre le Dieu que nous adorons. Et les Écritures nous disent, quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité de son peuple, et qui les oublie, et qui fait du bien à son peuple? Quel Dieu parmi les dieux est semblable à toi, l'autre Dieu? Il n'y en a pas. C'est pour toutes ces raisons que nous ne devons pas adorer des idoles. Maintenant, comment pouvons-nous nous garder de ces idoles-là? Comment on peut se garder de ces idoles? Nous avons vu tantôt ce que c'est que les idoles. Nous avons vu les avertissements que Dieu donne, que c'est dangereux. Nous avons vu que adoration, adorer les idoles, c'est du néant. Il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de profit à adorer des morceaux de bois, aller vers eux. Maintenant, comment nous pouvons nous préserver contre ces choses-là, ces idoles-là? Alors, j'ai vu quelques points. Identifier, premièrement, nos idoles. Comment on doit identifier nos idoles? Comment nous pouvons identifier nos idoles? En observant. En observant. Et l'Écriture nous dit dans Matthieu 6, qui nous dit, « Là où ton trésor, là aussi sera... » Ah, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors, si tu veux identifier ton Dieu pour savoir si tu as des idoles dans ta vie, regarde où tu dépenses ton argent. Regarde où tu mets ton temps. Quand tu es dans la solitude, tu es seul, qu'est-ce que tu fais? Tu passes le temps à faire quoi? Devant l'ordinateur? Devant la télévision? Devant la pornographie? Devant d'autres choses? Qu'est-ce que tu fais? Où tu passes ton temps? Ça va te montrer où est-ce que ton Dieu se trouve. Tout ce qui prend ton énergie, ton argent, ton attention et toute ta force, c'est là ton Dieu. Ce n'est pas compliqué. Tu t'assois, tu sors ton agenda et puis tu regardes combien d'heures tu as passé par-ci, par-là, par-là. Puis tu additionnes tout, tu sauras où ton Dieu se trouve. Puis si c'est compliqué pour toi, tu prends ta carte Mastercard, là, quand on t'envoie le relevé là, tu prends, tu regardes pendant un mois tous les achats que tu as fait là. Tu vas savoir la plupart de ton argent où c'est rentré. Tu vas savoir où est ton Dieu. Amen. Ah, ça, il n'y a pas beaucoup d'amen dans ça, hein. Parce que ça ne fait pas l'affaire des gens. Mais c'est la vérité. Et on ne va pas passer à côté, on va dire. Et c'est ça. Donc, nous allons voir où se trouve notre Dieu. Tous les jours. Vous savez que notre femme peut être notre Dieu. Notre enfant peut être notre Dieu. Notre mari peut être notre Dieu. Ça veut dire que toute autre chose qui prend la place de Dieu dans notre vie est une idole. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas aimer ma maman. Je ne dois pas aimer ma femme. Je ne dois pas aimer mon mari. Je dois aimer mon mari parce que Dieu me dit que chaque homme aime sa femme et que chaque femme respecte son mari. N'est-ce pas? Alors, donc, si on dit d'aimer et de respecter son mari, donc nous devons aimer notre femme. Et la Bible nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, ce n'est pas mauvais d'aimer. Mais aimer plus que Dieu, quelqu'un, mettre la place, personne à la place de Dieu, c'est de l'idolâtrie. Dieu dit, je ne tolère pas cela. On doit l'enlever. Mais je dois l'aimer dans sa juste valeur et mettre Dieu dans sa juste valeur plus haut que les humains. Amen. Et cela doit refléter dans tout ce que nous faisons. Ce n'est pas du favoritisme, mais c'est être logique, c'est être vrai. Amen. Alors, Israël fait cela et Dieu va nous parler. Quand on regarde cela, on va voir aller dans Josué 24. Josué chapitre 24. Josué était au crépuscule de sa vie. Il était vers la fin de sa vie, comme Moïse a fait dans Deutéronome 32. Josué aussi, dans la fin de sa vie, parce qu'après le chapitre 24, vers la fin, Josué va mourir. Alors, Josué va rassembler tout Israël pour les rappeler les bontés de Dieu. Comment Dieu a été fidèle avec eux pendant toutes ces années-là. Il va les rappeler et puis il va leur demander d'enlever les dieux qui sont dans leur vie. Et il amène Israël à prendre position. Et ce matin, je vais vous amener à prendre position. Si vous avez des idoles dans votre vie, vous devez prendre position ce matin. Vous ne pouvez pas sortir tel que vous êtes rentré. Et moi non plus. Il faut que nous prenions position face à cela. Dans Deutéronome 24, et je dis Josué 24, s'il vous plaît, à partir du verset 14. Peut-être même je vais le lire à partir du verset 1. On va regarder ça, ce serait bien. Parce que le verset 14, c'est... Je suis parti plus loin, moi. Alors, on dit, à partir du verset 1, on va le regarder, vous allez voir, pour comprendre un peu le contexte. On dit, « Josué assembla tous les tribus d'Israël à Sichem et convoqua les anciens d'Israël, ses chefs et ses justes, ses officiers. Et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle le Dieu d'Israël. Ainsi a parlé le Dieu d'Israël, vos pères à Terah et père Abraham et père de Nakhor, habitants anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient de l'autre d'autres dieux. Je prie votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, et je lui fis parcourir le pays de Canaan. Je multipliais sa postérité et je lui donnais Isaac. Et je donnais à Isaac, Jacob et Ésaü. Et je donnais à la postérité d'Ésaü les montagnes de Séir. Mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. Alors là, il va compter l'histoire d'Israël, comment ils vont être rendus en Égypte. Et quand nous arrivons à partir du verset 15 maintenant, verset 14 plutôt, je veux dire, verset 14 en partant. Et Israël, il va leur dire, maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve, en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères de l'autre côté du fleuve, ou les dieux des Amoréens et des pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu. Et c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. Et c'est lui qui a opéré sous nos yeux de grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route et que nous avons suivi et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Alors, donc, le peuple décide de dire qu'eux, ils vont servir l'Éternel. Et au verset 24, quand on arrive là-bas, à partir du verset 24, et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous lui obéirons, nous obéirons à sa voix. Qu'est-ce que je veux vous dire ici? C'est que Josué va mettre le peuple face à la réalité. Il dit, vos parents ont adoré d'autres dieux dans le passé. Moi, là, le temps est fini pour moi, je vais partir. Mais j'aimerais que vous décidiez qu'est-ce que vous allez faire. Vous, le peuple, vous allez servir qui? Il y a encore des dieux parmi nous. Il y a d'autres peuples qui sont là, d'autres personnes au milieu de nous qui ne se sont pas débarrassées de leurs dieux. Et moi, avant de partir, je vais faire le ménage. On veut que tout soit net. Il prépare le peuple à cela. Qu'est-ce qui se passe? Il va demander au peuple, donc, si vous voulez servir l'Éternel, qu'est-ce que vous devez faire? Il dit, ôtez les dieux qui sont au milieu de vous. Il demande au peuple d'enlever les dieux qu'ils ont au milieu d'eux. Alors, si je veux me débarrasser, me faire le ménage dans ma vie, je dois d'abord commencer à enlever les dieux, identifier le dieu qui est dans ma vie et l'enlever, ôter. Deuxièmement, nous devons nous tourner vers l'Éternel. Et c'est ce que Josué va leur dire. Tournez-vous vers Dieu. Servez-le lui seul, pas d'autre. Alors, si nous ne faisons pas cela, nous ne serons pas en train de servir l'Éternel. Ce matin, ta vie est comment? Quels sont les dieux qui étouffent ta foi chrétienne, qui t'empêchent d'être un véritable enfant de Dieu, d'épanouir, de t'épanouir et de profiter réellement, pleinement de ton Dieu dans toute sa bonté, dans toute sa grâce, dans toute son excellence? Et qu'est-ce qui t'empêche, toi, d'être un chrétien épanoui? Tous les jours, tu as la face longue comme un cheval qui a bu de l'eau chaude. Alors, c'est quoi le problème? Tu n'es pas épanoui. Tu dis que tu suis un Dieu qui est puissant et bon. Mais les gens ne voient pas la bonté de ce Dieu-là sur toi. Quelqu'un m'a dit un jour, on parlait, et il parlait à quelqu'un, il dit, j'ai dit à la personne, est-ce que tu es content? Il dit oui. Il dit, mais dis-le à ta face, parce qu'elle ne sait pas que tu es content. Alors, si tu es enfant de Dieu, tu dois être capable de t'épanouir. Je ne dis pas d'être hypocrite. Je ne dis pas de faire qu'on n'a pas de souffrance. On souffre, on a des difficultés, on a des bobos par-ci, par-là. Mais cela ne doit pas nous empêcher d'être des enfants de Dieu épanouis en Jésus-Christ. Amen. Alors, tout le temps, marcher comme si c'est toi seul qui porte le fardeau du monde là. Non, on en a tous des fardeaux. Mais le Dieu dans ta vie qui entrave ta marche chrétienne, qui t'empêche, l'idole, qui t'empêche d'être l'enfant de Dieu que tu dois être, qui est en train de forger ton caractère. Et quand on te parle, tu es devenu un petit chihuahua à la maison, tout le monde a peur de toi. Ça, ce n'est pas un enfant de Dieu. Il faut changer. Enlevons les idoles de notre vie. Mettons-les dehors. Et marchons avec l'Éternel, notre Dieu. Notre caractère est important. Dieu travaille notre caractère. Et non seulement les pensées, qui entrent sont importantes, le renouvellement de l'intelligence par la parole de Dieu. Et par cette même parole de Dieu, nous devons déceler les idoles de nos vies qui peuvent nous empêcher d'être des bons chrétiens et de bonnes chrétiennes, pour les enlever, pour avoir une vie stable, une vie épanouie. Amen. Alors, je termine avec ceci. Alors, et on doit veiller sur nous-mêmes aussi. Il ne suffit pas de se repentir pour enlever les idoles. Quand je me repens de mes péchés, je demande pardon à Dieu, j'enlève mes idoles de ma vie. C'est vrai, mais ça ne suffit pas. Tu peux te repentir, mais après encore retourner aux idoles encore. Mais quand on se repent, on doit fermer la porte et on doit veiller à ce que d'autres idoles ne viennent plus. Amen. On ferme la porte totalement et on veille. Et c'est ce que l'Écriture nous dit, de veiller à ce que les idoles ne reviennent pas dans notre vie. Et terminant avec cette conclusion, ça c'est le texte que j'avais lu, de marcher avec intégrité. En conclusion, le Proverbe 4, 23 nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et notre texte de base avec lequel j'avais commencé, 1 Jean 5, 20 à 21, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence. Il nous a donné l'intelligence pour faire quoi? Pour connaître le véritable. Maintenant, vous avez l'intelligence parce que le Fils de Dieu est venu. Il vous a donné l'intelligence de connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable, la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. C'est lui le véritable. Donc, tu as l'intelligence de pouvoir discerner ce qui est vrai et de ce qui est faux. De ce qui est de l'or et de ce qui est du pacotille. Alors, le pacotille, là, c'est les idoles. L'or, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, que l'Éternel nous aide. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. On va prier pour finir ce moment. La semaine prochaine, je vais continuer avec la suite sur la compagnie, les amis. Nos compagnons, ceux que nous fréquentons, peuvent influencer aussi notre caractère. Des bons amis dans notre vie. Si on a des mauvais, ils peuvent aussi influencer. Si on a des bons, ils peuvent aussi influencer. On va parler de ça dimanche prochain. Notre Dieu, nous voulons te dire merci ce matin pour ta bonté, pour ta fidélité. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons laissé des idoles prendre place dans notre vie. Des choses qui ne devaient pas être dans notre vie, dans ma vie et dans la vie de mes frères et sœurs ici, et qui a pris place. Nous voulons te demander pardon, Papa, toi le véritable Dieu. Lave-nous et purifie-nous. Débarrasse-nous de toutes ces iniquités et de toutes ces idoles qui nuisent, qui polluent notre vie chrétienne. Nous voudrons être des enfants de Dieu véritables qui marchent dans la dignité, la tête levée devant toi. Alors, Papa, s'il te plaît, pardonne-nous nos péchés. Renouvelle-nous. Relève-nous de nouveau, que nous puissions nous lever et marcher pour toi. Et avancer, et les ténèbres vont reculer. Et présenter ta bannière, le salut en Jésus-Christ, qui est proclamé à toutes les nations. S'il te plaît, fortifie-nous. Maintenant, sépare-nous dans ta paix et accompagne chacun de nous dans notre demeure respective. Seigneur, protège chacun de nous et nos familles. Au nom de Jésus-Christ. Amen.